Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Un grand bonjour à vous, chers auditeurs, qui écoutez aujourd'hui Transistor pour une après-midi un peu particulière tout de même, puisqu'à l'occasion des 6 ans de notre radio, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 17h, avec un programme des réjouissances assez chargé. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, et on va commencer immédiatement cet après-midi avec En ce moment, une heure d'actualité, qu'elle soit politique ou culturelle, et je laisse tout de suite la parole à Thomas pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Clément, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées.
Je pense que nous sommes les seuls à ouvrir notre journal sur cette information aujourd'hui, Thomas.
Et c'est un choix assumé, celui de mettre en lumière une journée créée par l'ONU en 1992 et très peu médiatisée, alors que son objectif est important, favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes en situation de handicap. De nombreuses manifestations sont prévues aujourd'hui partout dans le monde. Citons par exemple en France la campagne Kill la bêtise, relayée sur les réseaux sociaux, dans la presse et en affiche dans 16 grandes villes, dont Paris et Lyon.
Adapter l'ascenseur aux handicapés ? Le rez-de-chaussée, c'est mieux. Un handicapé dans le métro, ça prend trop de place.
Les mots sont durs et pourtant, c'est la réalité quotidienne de notre exclusion des personnes handicapées qui est ainsi décrite et dénoncée par l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. L'Organisation mondiale de la santé rappelle de son côté qu'environ 10% de la population mondiale, soit 650 millions de personnes tout de même, vivent avec un handicap. À noter que 80% des personnes handicapées vivent dans des pays en développement.
Et les mêmes problématiques se posent aux personnes handicapées partout dans le monde, notamment pour l'accès à l'éducation ou à l'emploi.
Quelques chiffres édifiants. D'après l'UNESCO, dans les pays en développement, 90% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Dans les pays de l'OCDE, les enfants handicapés sont scolarisés dans des proportions similaires aux enfants non handicapés pour les premiers et deuxième cycles. En revanche, on constate que les personnes handicapées sont sous-représentées dans les études supérieures. Pour ce qui concerne l'accès à l'emploi, maintenant, quelques 386 millions de personnes en âge de travailler sont handicapées, selon l'Organisation internationale du travail. Pour elles, le chômage atteint 80% dans certains pays.
Donc non seulement il y a une forme d'exclusion pour les personnes handicapées, mais parfois de la maltraitance et de la violence. Et tu tenais à évoquer à ce propos une étude des Nations Unies, Thomas.
Oui, et elle date de 2004. Ses conclusions sont aussi bouleversantes que révoltantes. Elle a été menée dans l'Odisha, ex-Orissa, état indien du Nord-Est. Elle concernait uniquement des femmes en situation de handicap, moteur ou mental. Il en ressortait que presque toutes les femmes et filles handicapées étaient battues à domicile, sans que l'on sache donc si c'est parce qu'elles étaient battues qu'elles étaient handicapées, ou si c'est parce qu'elles étaient handicapées qu'elles étaient battues. De même, on apprenait que 25% des femmes ayant un handicap mental avaient été violées et que 6% des femmes handicapées avaient été stérilisées de force.
Dans le reste de l'actualité internationale, Thomas, une déclaration en forme de menace.
Nous n'oublierons jamais cette complicité avec les terroristes. Nous considérerons toujours la trahison comme l'un des pires et des plus vils actes, que ceux en Turquie qui ont tiré dans le dos de nos pilotes le sachent, a déclaré ce jeudi le président russe Vladimir Poutine après l'épisode de l'avion de chasse russe abattu la semaine dernière par la Turquie. Le président turc Erdogan et le président russe ont d'ailleurs tout fait pour s'éviter lundi dernier lors de l'ouverture de la COP21.
Syrie toujours avec les premières frappes britanniques sur des positions du prétendu État islamique.
Le Royaume-Uni a mené dans la nuit de mercredi à jeudi ses premières frappes aériennes contre les positions du prétendu État islamique en Syrie. Quelques heures plus tôt, le Parlement avait donné son accord pour un tel engagement militaire. À noter que le Royaume-Uni bombarde des positions du prétendu État islamique en Irak depuis plus d'un an, mais en Irak.
Des bombes et des balles, n'est-ce pas ?
Oui, hélas, les réactions se multiplient outre-Atlantique après la fusillade qui a fait au moins 14 morts et 17 blessés à San Bernardino, à l'est de Los Angeles, hier. C'est-à-dire moins d'une semaine après les 3 morts de la fusillade du vendredi 27 novembre dernier dans un planning familial du Colorado. Hillary Clinton, candidate à la primaire démocrate, a tweeté « Je refuse de considérer cela comme normal. Nous devons prendre des mesures contre les violences par armes à feu maintenant. Barack Obama parle quant à lui de mesures qui pourraient être prises pour éviter la fréquence de ces fusillades, tout en sachant pertinemment qu'en l'état actuel, il ne pourra rien faire avec la majorité républicaine au Congrès.
Et donc après le meurtre de masse, le meurtre de notre maison, si on peut dire ?
Oui, un collectif international de juristes et d'ONG lance ce jeudi un tribunal international à La Haye, aux Pays-Bas, pour, je cite, « juger les crimes imputés à la multinationale américaine Monsanto ». Dont dans le domaine environnemental et sanitaire et contribuer à la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit international. L'idée serait de faire de l'écocide le cinquième crime contre la paix aux côtés du crime contre l'humanité, du crime de guerre, du génocide et du crime d'agression. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui se poseraient la question, écocide, c'est un néologisme issu de la contraction entre écosystème et génocide. Autre étymologie possible pour te faire plaisir, Clément.
Ah oui.
En grec, oikos, éco, c'est la maison, et cide vient du latin okidere, qui signifie tuer. Le terme a été utilisé pour la première fois en 1972 par le premier ministre suédois Olof Palme, dans le contexte des épandages d'agents oranges par l'armée américaine sur les forêts du Vietnam.
Et du tribunal Monsanto au Tribunal international des droits de la nature, qui siégera à Paris vendredi et samedi, en marge de la COP21, il n'y a qu'un pas.
Et pourtant, il y a une grande différence, Clément, parce que si le Tribunal international des droits de la nature, que tu viens d'évoquer, il a surtout une valeur pédagogique, le tribunal Monsanto, lui, c'est un vrai tribunal avec des vrais juges, des avocats en robe qui examineront de vrais chefs d'inculpation établis avec les vrais outils du droit international. Même si ce tribunal n'aura pas de reconnaissance institutionnelle. Une initiative inédite donc et un timing habile à l'heure où le monde est rassemblé au Bourget près de Paris pour parler de l'avenir de notre planète.
Alors, avenir de la planète, mais aussi en ce moment, avenir de l'Europe, Thomas.
Oui, le très eurosceptique Danemark organise aujourd'hui un référendum pour renforcer sa participation au programme européen de sécurité. Un scrutin qui s'annonce serré et pourrait bien se transformer en plébiscite contre l'Europe. Depuis 1994 et le rejet du traité de Maastricht par le Danemark, le pays bénéficie de plusieurs clauses d'exception dans le cadre de l'Union européenne. Or, en raison d'une réforme de la coopération policière européenne, le Danemark risque de se voir exclu de l'agence Europol, à moins de renoncer à certaines de ses exceptions. D'où la convocation des électeurs pour ce référendum.
Europe toujours, Thomas, et en bref.
Oui, la Banque Centrale Européenne doit annoncer aujourd'hui, Clément, des mesures pour lutter contre l'inflation faible et la croissance anémique en zone euro.
De l'international au national, on change d'échelle et tu as un scoop, Thomas. L'actualité en France, ce n'est pas uniquement la COP21, les conséquences des attentats du 13 novembre ou la dynamique frontiste annoncée pour les régionales de ce dimanche.
Exactement, on parle aussi de Bernard Tapie. C'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris doit déterminer si l'homme d'affaires a droit aux milliards d'euros qu'il réclame. Une affaire de plus de 20 ans, puisque Bernard Tapie estime avoir subi un préjudice économique et moral en 1994 lors de la revente d'Adidas par le Crédit Lyonnais à l'homme d'affaires public. Robert-Louis Dreyfus.
Oui, mais Thomas, en France, la tension tout de même se concentre essentiellement sur les élections régionales dont le premier tour est ce dimanche 6 décembre.
Oui, ce matin, la présidente du Front National, Marine Le Pen, déclarait à nos confrères d'Europe 1 que son parti était en mesure de gagner 4 à 5 régions. Alors, vantardise ou estimation réaliste, difficile de connaître les résultats d'un scrutin 3 jours avant que le premier bulletin n'ait été déposé dans l'urne. Néanmoins, les sondages seraient unanimes. Il semblerait qu'il y ait une dynamique réelle en faveur du Front National, y compris dans des régions où l'implantation du parti d'extrême droite est pourtant quasiment inexistante. Les instituts de sondage évoquent plus de 20% des voix pour le Front National en Île-de-France ou en Bretagne. Un score certes insuffisant pour remporter ces régions, mais qui serait historique. Je rappelle néanmoins que les sondages ne sont qu'une photographie d'une partie de l'opinion publique à l'instant T.
Et mais ce week-end, il n'y a pas que les élections régionales en France et l'élection de Miss France.
Oui, il y a surtout le Téléthon et un appel aux dons avec un numéro devenu, hélas, bien familier, 36-37. L'AFM Téléthon lutte pour trouver des traitements aux maladies génétiquement rares. 30 millions de personnes concernées en Europe. Chaque année, 30 000 nouveaux cas en France. Pour toutes ces raisons, un seul numéro, 36-37, ou bien une adresse internet, afm-téléthon, sans accent, .fr. Et pour reprendre le slogan de l'AFM Téléthon, On compte sur vous.
Merci Thomas, on te retrouve tout à l'heure pour le Flash Info. On part maintenant en enquête avec Jérémy au sein de l'Union Européenne.
Alors, raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là.
Alors Jérémy, tu vas nous raconter aujourd'hui l'espace Schengen qui est en péril.
Oui, en péril l'espace Schengen parce qu'il connaît un contexte difficile, encore accentué ces derniers jours. Alors il y a d'un côté depuis 2011 une pression migratoire qui a considérablement augmenté à la suite des printemps arabes et puis de la déstabilisation politique des pays du Maghreb et du Proche-Orient. Or l'Union Européenne et Schengen tel qu'il a été conçu paraissent très mal outillés pour gérer correctement un tel afflux de migrants. Et puis d'un autre côté, un autre problème crucial soulevé par le contexte et par l'actualité, celui de la sécurité face aux attaques terroristes. François Hollande a par exemple renforcé les contrôles aux frontières dans le cadre de Schengen dès le lendemain des attentats, justement pour des raisons de sécurité.
Mais alors justement, quel rapport entre tout ça, Jérémy ? Les printemps arabes, les attentats, Schengen ?
Eh bien, le rapport, Clément, c'est la circulation. Depuis les pères fondateurs, l'Union Européenne s'est construite sur un grand principe, celui de la libre circulation. Et l'accord de Schengen, signé en 1985 et entré en application en 1995, permet justement la libre circulation des personnes. Le principe est simple, n'importe qui peut circuler librement au sein des pays signataires de l'accord. Alors librement, c'est-à-dire tout simplement sans contrôle aux frontières internes des pays de l'espace Schengen. 22 pays de l'Union Européenne sont membres de l'espace Schengen, dont la France bien sûr, ainsi que 4 autres. Cela a pu fonctionner sans problème majeur jusqu'à récemment, mais ces dernières semaines, la donne a changé et beaucoup ont cherché à remettre en question Schengen. Alors la France après les attentats, l'Union Européenne à l'égard de la Grèce dernièrement, et puis les Pays-Bas et ses voisins. La révolte gronde.
Mais ces contestations de Schengen, Jérémy, est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles finalement ?
Finalement non, pas tant que cela. Déjà en 2011, il y avait eu une petite refonte de Schengen à l'initiative de la France et de l'Italie. Mais là, ce qui est nouveau ces jours-ci, c'est le nombre de ces contestations et la variété des contestataires. Alors, premier contestataire d'abord, la France, bien sûr, qui a emmené dans son sillage une partie des institutions européennes. Vous vous souvenez des déclarations de François Hollande le soir des attentats du 13 novembre, annonçant ce qu'il appelait une fermeture des frontières. Bon, il faut savoir en fait qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une fermeture des frontières, simplement d'un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, pour ce qui concerne la France. C'est une possibilité, en fin de compte, permise par les traités de Schengen, en cas de menace pour la sécurité et avec une limite de 6 mois. Et par ailleurs, Cazeneuve et Taubira se sont rendus dès le lendemain des attentats devant la Commission européenne pour réclamer des contrôles systématiques et obligatoires aux frontières extérieures pour tous. La France réclame aussi une meilleure collaboration, notamment en matière de renseignement, avec par exemple la création du fameux PNR, le Passenger Name Record, fichier mettant en commun des renseignements sur toutes les personnes ayant pris l'avion dans l'espace Schengen.
Donc la France, Jérémy, conteste Schengen, et certains contestent aussi la place de la Grèce dans Schengen.
Mais oui, c'est la deuxième grande contestation de Schengen ces derniers temps, autour de la Grèce. Car depuis le début de l'année, 800 000 migrants ont traversé la Méditerranée, dont 700 1000 qui ont passé par la Grèce. Or, l'Union Européenne trouve que la Grèce gère très mal l'afflux de migrants. Juncker aurait même menacé Tsipras de sanctions lors du prochain sommet européen les 7 et 8 décembre. Alors l'Union Européenne fait courir des rumeurs confiées au Financial Times par des ministres des cadres de l'Union. Une sanction pourrait par exemple consister en la suspension des accords de Schengen en Grèce pour laisser le pays gérer la crise seul. Et ce sont les pays de l'Est qui sont les plus durs à l'égard de la Grèce. L'Union lui reproche d'avoir refusé son aide humanitaire ainsi qu'un appui dans le cadre des programmes Frontex pour mieux gérer la crise. Et de son côté, Tsipras affirme qu'après 5 ans d'austérité, l'État grec, déjà anémié, est dépassé par manque de moyens et d'hommes. Et Yanis Mouzalas, le ministre de la politique migratoire, a ajouté que l'Union a tort de croire que la Grèce peut contrôler la situation elle-même.
Or, les défaillances de la Grèce donnent des idées à certains.
Mais oui, par exemple, au ministre des Finances néerlandais, Jeroen Dijsselbloem, il a proposé dans une interview au journal L'Echo, le journal belge L'Echo, de créer un mini-espace Schengen qui rassemblerait les pays du Benelux et un certain nombre d'autres. Donc France, Pays-Bas, Grèce, autant de signes de tension qui révèlent aussi les débats à l'œuvre sur l'Union européenne elle-même et sur sa légitimité politique. Et tout cela n'est évidemment pas bon signe pour le développement de l'Union. Comme le dit Jean-Claude Juncker, Schengen est comateux. Il n'hésite pas non plus à menacer. Si Schengen échoue, selon lui, c'est l'euro qui n'aura plus de sens. Alors vraiment, il a bien péril en la demeure européenne.
Merci Jérémy. Alors après ce premier quart d'heure en immersion dans l'actualité, il est temps de retrouver nos éditorialistes pour avoir leur avis autour d'un café, sans doute bien régénérateur en ce début d'après-midi.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Alors avant de parler avec Mathias de politique intérieure, à l'approche du premier tour des élections régionales, je vous propose, dans cet édito international, de partir loin de l'Europe, de partir en Orient, nous perdre dans les affres de la deuxième puissance économique mondiale, la Chine. Vous avez peut-être entendu les chiffres de cette économie, puisque la croissance est estimée cette année à 6,9, un chiffre qui ferait pâlir tous les pays occidentaux. À en croire les officiels chinois, le climat est bon, le pays est toujours sur la voie du progrès, selon un discours très bien rodé. Et pourtant, ce chiffre est en réalité un très mauvais signe. Il s'agit d'abord de la plus faible croissance depuis près d'un quart de siècle, et surtout, personne dans le monde occidental ne prend au sérieux ce chiffre, même en valeur, dans la mesure où le Bureau chinois des statistiques livre des chiffres plutôt idéologiques et non des estimations représentatives de la réalité. Selon des économistes occidentaux, qui se basent sur d'autres indicateurs, il semble bien que le pays soit entré en récession. La production d'électricité n'a pas augmenté par rapport à l'an dernier, le volume de fret ferroviaire a baissé de 10%, le secteur de l'automobile, un indicateur précieux, affiche des volumes de production très faibles, et surtout, le montant des prêts consentis par les banques a chuté de près de 85 milliards d'euros, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas vraiment signe d'une bonne santé économique. En gros, en dessous de 7%, les observateurs occidentaux considèrent que la Chine est en récession. Et surtout, cette Chine, elle paye les conséquences de son plan de relance, mis en place suite à la crise bancaire de 2008. Le gouvernement chinois avait lancé une vague d'investissements pour construire des routes, des villes et d'équipements, et qui sont aujourd'hui tous absolument déserts. Vous avez peut-être, vous, autour de la table, entendu parler de Tiang Dongsheng. Oui. Non,
non.
Bah c'est normal, c'est dommage pourtant. Bah, il s'agit d'une réplique de Paris à 200 km de Shanghai. Le projet était absolument pharaonique, avec une réplique de la Tour Eiffel, des immeubles haussmanniens, les Champs-Élysées, les fontaines de Versailles, le tout sur une superficie équivalente à celle de Bastia en Corse. L'endroit a été dimensionné pour accueillir potentiellement 100 000 personnes, mais on n'y trouve aujourd'hui que quelques touristes curieux ou des couples n'ayant pas les moyens de s'offrir une lune de miel dans la véritable Paris. Et puis vous avez peut-être aussi entendu parler de l'apocalypse boursière de cet été, puisqu'en juin, le monde a insisté à un effondrement boursier très important. Le gouvernement chinois avait alors pris des mesures exceptionnelles, pilotées par la Banque centrale chinoise, et une de ces mesures, c'était la dévaluation de sa monnaie cet été, sans doute pour relancer les importations, mais ce qui a beaucoup étonné les observateurs occidentaux. Et cela a-t-il des conséquences sur la politique intérieure, me demanderez-vous ? Alors que le culte de la personnalité a repris de plus belle avec l'actuel président chinois, on pourrait en douter. Pourtant, le 20 novembre dernier, le Financial Times rappelait l'espèce de contrat tacite qui semble régir les relations entre la société et le pouvoir. En gros, nous gérons le pays et nous augmentons votre niveau de vie, et vous, vous ne vous mêlez pas de politique. Or, il semble bien qu'après tous ces événements, et face à la difficulté pour les autorités de résorber cette mauvaise situation économique, la population soit très inquiète. Un vent de changement, un vent de révolte soufflerait-il en Chine ? On peut toujours l'espérer, évidemment, mais comme les informations ont du mal à sortir du pays, nous n'avons malheureusement aucun moyen d'en être sûr. Et après ce petit périple en Orient, chers auditeurs, on revient en France maintenant avec Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour Clément.
Et donc tu vas nous livrer ton billet politique à la veille de ces élections régionales dont le premier tour est ce dimanche.
Françaises, Français. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République.
Au revoir.
Oui, en effet, comme l'a rappelé Thomas dans son journal, nous votons dimanche pour les élections régionales. Et ce ne sont pas n'importe quelles élections régionales, car, comme vous le savez, les régions ont évolué en méga-régions, un peu comme les Pokémon, mais en moins bien. Et reste à savoir s'il s'agit d'élire des méga conseillers régionaux. Et vous vous en douterez, la question reste ouverte. Le redécoupage des régions a créé de nouvelles entités territoriales au nom à rallonge et imprononçable. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Je ne ferai pas ici un point sur l'utilité des régions car elles n'ont pas de pouvoir extraordinaire. Et cela, les candidats ont l'air de bien l'avoir intégré compte tenu de la pauvreté du débat régional qui se transforme systématiquement en débat sur des questions nationales. Oui, le Front National dont on parle beaucoup serait en capacité de gagner 2 voire 3 régions, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la région PACA et aussi le Grand Est avec respectivement Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. Le PS à l'inverse qui tenait jusqu'alors la quasi-totalité des régions sauf l'Alsace semble bien parti pour en perdre plus de la moitié.
Et à son âme.
Et oui, on ne tire pas sur une ambulance. Et quelques régions sont en ballottage indécis entre le PS et les Républicains, comme la Normandie ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Valérie Pécresse, quant à elle, qui rêve de l'Île-de-France depuis une bonne dizaine d'années, serait bien en capacité de la gagner. On est face à une campagne bien plate car après la mise entre parenthèses de la campagne après les attentats du 13 novembre, l'unité nationale a vite été enterrée sous diverses couches d'indécence et d'ambition personnelle. Puisqu'on a fait manger des hormones de croissance aux régions pour en faire des monstres géographiques sans pour autant étendre leur champ d'action, qui reste toujours très limité, ces élections régionales sont le moment idéal pour ceux qui, premièrement, ne souhaitent pas exercer le pouvoir de manière concrète, mais deuxièmement, cherchent quand même à asseoir leur autorité politique en gagnant la présidence d'une entité territoriale qui pourrait représenter jusqu'à un petit quart du territoire national. Je ne jetterai pas ici l'opprobre sur tous les candidats, car certains sont évidemment dévoués à leur région et y ont consacré tout leur parcours politique, c'est tout à leur honneur, mais ceux qui viennent parasiter le débat avec des ambitions personnelles et nationales font de ces élections une caricature de la vie politique pour en donner, malheureusement, encore une fois, une image détestable. Tout cela vient donc éclipser le débat régional et faire exploser le débat national. Et voici quelques exemples. Marion Maréchal Le Pen a prévu de ne plus subventionner le planning familial. Et je cite « Je considère qu'aujourd'hui, ce sont des associations politisées, on le sait bien, et elles véhiculent une banalisation de l'avortement. Cette déclaration a été faite devant des sympathisants de la Manif pour tous. Et cela n'a pas manqué de faire réagir sur Internet. Car si Marion Maréchal veut lutter contre la banalisation de l'avortement, il faudrait donc encourager l'accès au contraceptif, et qui fait ce travail? Je vous le donne en mille, le planning familial.
Évidemment.
Au Nord, Marine Le Pen vient de décider qu'elle retirait toutes les subventions accordées au journal La Voix du Nord parce que celui-ci avait pris position contre la victoire du FN en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie avant d'apprendre que la région ne versait pas un copec de subvention au quotidien. Plus localement, les récentes déclarations de Laurent Wauquiez qui se présente en Auvergne-Rhône-Alpes laissent songeur. Il a promis de débloquer 20 millions d'euros pour la sécurité de la région et surtout pour sécuriser les lycées qui sont à la charge de la région avec des portiques de sécurité et une vidéosurveillance accrue. Reste à savoir si l'on veut débloquer des millions pour empêcher tous ces lycéens prétendument terroristes pour rentrer dans les lycées plutôt que de faire en sorte qu'ils y entrent et apprennent quelque chose.
Alors la question est sûrement très difficile à trancher. Merci Mathias en tout cas. Et c'est avec une revue de presse que l'on va refermer ce café des éditorialistes avec notre docteur Espress. Je parle bien entendu de Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans l'actualité aujourd'hui? La réponse après un jingle.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors justement, aujourd'hui dans la presse, l'ambiance est encore à la guerre.
Mais oui, la guerre est déclarée, semble-t-il, et elle est partout dans la presse aujourd'hui. Dans les mots du Premier ministre analysé par Libération, qui titre Manuel Valls droit dans son costard martial. Liliane Alemania et Laure Breton décryptent ses postures et ses discours bellicistes. Elle est aussi à l'échelle internationale. Hein, c'est l'offensive contre l'État islamique qui s'organise Caen à Caen, en une du Figaro. Les Occidentaux montent en puissance contre Daesh. Et puis alors la guerre, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Dans une tribune des pages opinion du même Figaro, Éric Woerth et Maëlle de Calan s'insurgent. La rigueur budgétaire est nécessaire pour soutenir notre police et notre armée. Mais oui, parce que pour l'ancien ministre et héros de l'orthodoxie budgétaire à l'UMP, le raisonnement est simple. La guerre coûte cher, d'accord, mais c'est pas une raison pour creuser les déficits publics. Donc, pour financer l'effort militaire, il faut couper dans les dépenses. Dans l'aide médicale d'État, par exemple. Hein. Sympa, non. Donc, Daesh fusille, Evers sabre. Et puis alors, l'offensive de l'État islamique, ça c'est moins drôle, contre la France, continue en parallèle, cette fois sur le plan idéologique. C'est toujours dans le Figaro, Marie-Estelle Pech nous raconte comment Dar al-Islam, le magazine en français de l'organisation, appelle à viser l'école républicaine, et notamment les professeurs qui enseignent la laïcité, cette bouillie de mécréance. Alors on pourrait rêver d'une union nationale autour d'une école qui apparaît comme cible choisie des fanatiques, mais ça resterait sans doute un vœu pieux.
Et une autre perspective pas très réjouissante, celle d'un succès du Front National, on l'a déjà évoqué, aux élections régionales.
Oui, on en parlait et ça horrifie tous les acteurs du débat politique. Comme le dit le Canard enchaîné, climat, coup de chaud, poussée du Front National, coup d'effroi. Alors hier, c'était la presse quotidienne, hein, on lisait à l'instant, qui montait au front contre le FN, la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, c'était la société civile d'alerter. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, averti dans l'opinion, le programme du FN est nuisible. Comme Pierre Gattaz, président du MEDEF, qui tenait hier un discours assez similaire dans Le Parisien. Et puis dans la Croix, Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, prend position à son tour. Et il faut surtout lire le très digne édito de La Croix, qui souligne la gêne des chrétiens face à ce parti, le FN, hein, qui se réfère si souvent à la chrétienté comme symbole identitaire. Mais bon, pas sûr que toutes ces mises en garde aient le moindre effet. Des vœux pieux et du catéchisme encore.
Et pendant ce temps, en France, la COP21 continue.
Ah mais oui, tiens, c'est vrai, la COP21. Bon, enfin, bon, ça n'intéresse plus grand monde dans la presse. Mais comme en écho toutefois, on vous le racontait il y a une seconde, Libération relaie cette très curieuse initiative de tribunal populaire contre Monsanto, accusé d'écocide. Et au sujet de Monsanto toujours, Frédéric Autran, correspondant de Libération à New York, revient sur le réseau tentaculaire de la multinationale. 80% du maïs produit aux États-Unis provient de ces semences brevetées. Beaucoup de hauts fonctionnaires américains sont allés travailler pour elle après avoir quitté le domaine public. Et puis il y a tout le lobbying, les universitaires payés par Monsanto, mais présentés dans la presse comme experts indépendants. Alors autant de sujets qu'il n'est pas question d'aborder pendant la COP21, bien sûr.
Évidemment.
Et en fait, le combat contre l'industrie agroalimentaire est peut-être en train d'être gagné.
Ah oui ?
Mais oui, c'est ce que nous apprend le magazine Causeur. Aux États-Unis, les 20-40 ans sont en train de ruiner les gens de la malbouffe en choisissant d'aller consommer bio et végétarien. Oui. Alors bon, ils vont dans des grosses chaînes de sandwichs et de tacos et de burritos bio, mais qui marchent en fait sur les plates-bandes de McDo, de Burger King et des autres KFC. Alors Olivier Malduit se lance dans un éloge paradoxal pince-sourire de la junk food. Si on n'y prend pas garde, et qu'on ne réagit pas assez vite, dit-il, c'est tout un univers de parfums factices, addictifs et super puissants, à côté desquels on sait bien que le sexe n'est qu'un pis-aller qui pourrait s'évanouir à jamais. Peut-on raisonnablement imaginer une vie sans stabilisant, épaississant, agent de texture, de charge ou de rétention d'eau ? Et bon appétit, bien sûr.
Alors, on parlait de guerre tout à l'heure, Jérémy. Et la décroissance aussi est en guerre.
Oui, la guerre toujours. Et le toujours réjouissant mensuel d'écologie politique, la décroissance, sort l'artillerie lourde en une. Notre guerre contre la toile. Il s'agit en fait de s'en prendre à un ennemi inhabituel dans le militantisme écologiste. Internet et ses élateurs. Ben oui, on entend effectivement beaucoup de discours lénifiants qui nous disent combien le numérique va réorganiser la société horizontalement, en instituant une collaboration participative, libre, etc. Mais le plus souvent, il ne faut pas s'y tromper et on a juste affaire aux mutations de ce juteux marché qu'est le cybercapitalisme. C'est un tableau très noir que dresse le journal, mais c'est en fait une situation très bien vue.
Et alors on continue sur la vie à l'heure de la modernité.
Oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait sa une sur ces Françaises qui font congeler leurs ovocytes à l'étranger pour pouvoir envisager d'avoir un enfant même après 35 ou 40 ans. Une pratique bien sûr illégale dans notre pays, même si la cryoconservation des ovocytes est permise dans beaucoup de pays d'Europe et que certains militent pour son autorisation en France. Alors c'est un sujet difficile hein, parce qu'on y lit d'un côté le désir d'enfant de la part de femmes qui ne souhaitent pas pour autant sacrifier une émancipation professionnelle professionnelle durement acquise, et puis d'un autre côté un marché très rentable qui s'est vite constitué en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique. Il faut compter entre 2000 et 4000 euros pour se lancer dans un tel processus. Le progrès n'est décidément pas à la portée de toutes.
Et puis pour finir, c'est la rupture ?
Oui, alors ça, c'est à lire dans l'hebdomadaire féminin Stylist, souvent assez savoureux. Alors figurez-vous qu'un service nommé Breakup Shop s'est créé aux États-Unis, qui vous propose d'acheter un pack pour rompre avec l'être aimé à votre place, par téléphone ou par courrier. Je vous jure que c'est vrai. C'est cruel, c'est affreux, mais ça marche. Et il y a aussi... Mais oui, il y a un intéressé. Je te donnerai les références après. Et il y a aussi une appli RX Breakup. Elle, c'est pour l'autre côté. Ça vous aide à passer à autre chose après une rupture douloureuse. C'est développé par des psychologues cliniciens qui sont décidément toujours là derrière les bonnes idées. Alors c'est fou comme les nouvelles technologies veulent notre bien, décidément. Ça donnerait presque envie de faire la guerre à la toile dans les rangs de la décroissance.
Alors, merci Jérémy pour cette revue de presse et merci à vous pour cette première demi-heure. On reste dans l'actualité toujours, je vous l'ai annoncé, mais on part maintenant plus spécifiquement du côté de l'actualité culturelle, puisque l'on va être avec Pauline et Corentin qui sont en train en ce moment même de s'installer en studio. Il est bientôt 14h30 sur Transistor, c'est bientôt l'heure du journal de la culture, comme je vous l'ai dit, avec Pauline et Corentin qui ont un petit peu de mal à s'installer en studio. Alors bonjour Corentin, je vois que tu viens de t'installer.
Bonjour Clément.
Et Pauline, bonjour Pauline.
Bonjour Clément, bonjour chers auditeurs. Bienvenue dans notre journal de la culture de ce jeudi 3 décembre, après que nous nous soyons installés avec force peine. Au programme, un retour sur une polémique qui a défrayé la Voix du Nord cette semaine. Et restez ensuite à l'écoute pour un quiz qui vous plongera au cœur des actualités culturelles les plus insolites.
Les Polters, les Ravels, les Berlioz, les Maupassant, les Renoirs et les Rembrandt qui survivent malgré le temps. Puis les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Mais avant cela, l'agenda culturel. Et tout d'abord, le rendez-vous incontournable de ce début de mois de décembre avec Pauline.
C'est effectivement des nouvelles de la COP21 que nous vous donnons. Depuis le 30 novembre et jusqu'au 11 décembre, Paris accueille la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ça vous intéresse ? Qu'à ne cela ne tienne. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, baptisée ArtCOP21, pour avoir vent des nombreux événements culturels organisés à cette occasion.
La défense de l'environnement a décidément le vent en poupe en ce moment. Mais rassure-moi Pauline, l'actualité culturelle nous donne aussi de quoi nous évader de cette réalité parfois bien inquiétante.
Quel doux rêveur ce Corentin. Cela dit, si chers auditeurs, comme lui, vous avez à cœur de vous détendre, vous divertir, divaguer, une seule destination, Montreuil. En effet, du 2 au 7 décembre, s'y tient le salon du livre et de la presse Jeunesse. Ne croyez pas pour autant échapper aux affres de la réalité. La programmation, placée sous le thème « Pour de vrai, pour de faux », traite la question moins actuelle qu'atemporelle des rapports entre réalité et fiction. 4 scènes, littéraires, graphiques, vocales et transmédia, donnent à penser un thème dont il vous revient, chers auditeurs, de décider s'il est en définitive éternel ou éculé. Quoi qu'il en soit, à n'en pas douter, l'exposition consacrée à Alice au pays des merveilles ne manquera pas de réjouir les petits comme les grands de 7 à 77 ans.
Alors effectivement, c'est très alléchant tout ça,
mais
Pauline.
Oui, bien sûr.
Mais je crois aussi que Corentin a dégoté, et plus près de chez nous, de quoi amuser nos bambins.
Exactement, mon cher Clément. Mais pas besoin d'aller très loin, car l'exposition que je vous propose d'aller découvrir a lieu ici même à Lyon.
Parfait, je suis très chauvin.
Ah. Les musées Gadiagne retracent le rôle de Guignol pendant la Première Guerre mondiale au travers de l'exposition Guignol 14-18, mobilisé, survivre, qui se tient du 13 novembre au 28 février. La marionnette, déjà populaire avant 14, a largement pu contribuer à l'effort de guerre, vecteur de propagande, encourageant l'engouement patriotique de toute la population. Mais même si elle offre un regard plus décalé sur la marionnette, l'exposition est ouverte à toute la famille.
Ah, Corentin se donne des airs de gendre idéal. Mais si c'est très bien tout ça, je crois bien qu'il cache surtout son jeu et n'a pas trouvé à Lyon que de quoi distraire les enfants.
De fait, chère Pauline, j'avoue tout, mais c'est qu'il faut bien occuper aussi les parents. Clément, Aéropolis, ça te dit quelque chose ?
Mais à qui crois-tu ? Causer, mon coco. Je ne suis pas helléniste pour sécher à l'antenne en direct. Bref, ça a à voir avec, disons-le franchement, le cul, Corentin.
Bon coup, Clément. Après le salon paysage, jardin et sport, leur expo Lyon propose quelque chose de moins bucolique à ses visiteurs. Le week-end du 12 au 13 décembre, le salon de l'érotisme Aéropolis fera un arrêt à Lyon. Au programme, des spectacles aussi excitants que variés. Performeurs, cracheurs de feu, danseurs venus de toute l'Europe viennent viendront vous émoustiller dans des shows très chauds. Vous pourrez assister aux striptease les plus bandants, salivants, puisqu'un espace a également été conçu spécialement pour vous, mesdames.
Ah, merci Corentin de penser à nous. Mais sincèrement, à part son nom, Héropolis, vague clin d'œil à l'antiquité grecque, ce salon a-t-il seulement un tantinet à voir avec la culture ? La culture, dis-je, avec un grand Q, un grand C.
Alors, mais Pauline, j'ai envie de te poser cette question, qu'est-ce que la culture finalement ? Ou à partir de quand, en vertu de quoi, une chose, une personne quitte-t-elle le domaine du vulgaire, de l'ordinaire, pour se faire culture ? La culture est-elle toujours neutre, le bien de tout un chacun ?
De fait, Clément, bonne question. Et justement, c'est ce sur quoi une polémique rapportée récemment par La Voix du Nord s'interroge.
Ah oui, ça me dit quelque chose. Une bibliothèque baptisée Daniel et François Mitterrand a été renommée par vote d'un nom tout à fait commun ?
C'est exact. Il s'agit plus précisément de la médiathèque de Bailleul, localité du Nord-Pas-de-Calais, initialement baptisé Daniel et François Mitterrand, et que le conseil municipal a décidé de changer de nom au profit d'une expression plutôt poétique et métaphorique au fil des mots.
Mais comment ce changement de nom a-t-il eu lieu ?
Il y a tout simplement eu un vote parmi 10 propositions, et c'est en l'occurrence 42% des votants qui ont choisi au fil des mots.
Oui, alors bon, j'apprécie la référence de l'expression à l'histoire industrielle de la ville de Bailleul, dont le passé textile est ainsi mis en valeur, mais je ne pense pas que pareille modification, à mon sens plus politicienne que culturellement pertinente, soit très judicieuse.
Sans doute est-ce effectivement un moyen pour la municipalité de faire frémir l'opposition et de tenter de mettre aux oubliettes un ancrage à gauche assez profond de la ville, non ?
Oui, probablement. En effet, Jean Delobel a été 30 ans durant, de 77 à 2006, le maire PS de Bailleul.
Oui, mais un nom comme Daniel et François Mitterrand, a fortiori quand les deux prénoms du couple sont mentionnés, me semble plus symboliser l'importance de la culture et de sa démocratisation que l'inféodation historique de la municipalité de Bailleul au PS.
Oui, enfin, les Mitterrand n'ont pas l'apanage de la culture et de son accès. Et ça fait un peu le culte de la personnalité. Les socialistes ne sont-ils pas les premiers à dénoncer la personnalisation du pouvoir en général et le travestissement des présidents français en hommes providentiels ?
Bon, il est vrai que si Au fil des mots est un nom qui a clairement moins de personnalité et moins de charisme que Daniel et François Mitterrand, il présente l'avantage d'être plus consensuel, non ? Et puis de joliment relier l'histoire textile de la ville à la vocation d'une médiathèque. Faire vivre les mots et être un lieu de rencontre et de partage où la culture n'est pas seulement conservée, mais tisse aussi du lien social.
Ah, je sens surtout que Clément la veut se la jouer consensuel. Mais bon, on peut dire en définitive
Pauline.
Qu'à vouloir baptiser les lieux publics de noms propres, le mieux est attendre que le temps fasse son œuvre. Comme le dit le poète, avec le temps va, tout s'en va et la polémique aussi. Qui s'oppose à nommer un lieu public aujourd'hui ? Montaigne, Voltaire, Descartes. Bon, c'est vrai que ce sont des écrivains, des penseurs dont la dimension politique au sens strict ne nous parle plus. Mais à mon avis, pareille polémique en dit surtout long sur la difficulté, en France, à reconnaître à des personnalités politiques fortes le bénéfice d'avoir rendu des services au-delà des fractures partisanes.
Alors quittons un peu ces polémiques, si vous le voulez bien, pour aller vers des choses plus légères, puisqu'il me semble que c'est l'heure, oui, l'heure du fameux quiz de l'actualité culturelle.
Vous l'attendiez tous.
La plus insolite, oui, on l'attendait tous, Pauline. Je vais donc devoir essayer de répondre à vos questions, ainsi que les autres autour de la table.
Eh oui, Clément, eh oui, tout le monde. Tenez-vous prêts, car nous sommes partis à la recherche des informations les plus décalées en matière de culture. First question. Fin novembre, la petite ville de Mèche, en Franche-Comté, reçoit une lettre du Costa Rica. Une femme informe la municipalité que son compagnon a trouvé un objet lui appartenant sur la plage. Mais qu'est-ce donc ?
Une idée ?
Ah non, non, pas d'indice.
Ah bon, bah là tu nous colles, Pauline. De la Franche-Comté au Costa Rica, ça fait quand même une trotte.
En effet. Alors, en fait, il s'agit d'une cloche de vache. Non, 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 je ne dis pas ça parce que je suis normande. Hein. Bon, plutôt oxydée la cloche, hein, après un long séjour en mer. En fait, des historiens locaux expliquent qu'à la libération, de nombreux modèles immortalisant la libération de la France ont été fondus. Et on sait même où elles ont été fabriquées. En l'occurrence, à quelques dizaines de kilomètres de là, à la fonderie Aubertino, à l'hébergement Sainte-Marie, qui existe toujours. Mais comment ce souvenir de mèche a pu échouer sur une plage du Costa Rica ? Le mystère reste entier. Mais les explications des plus vraisemblables aux plus farfelues vont bon contrat.
Je m'en doute. Un autre mystère, mais cette fois pour les candidates d'un concours de sosie qui ont eu une bien agréable surprise. Le but du concours était d'imiter au mieux une chanteuse célèbre que je voudrais te faire deviner, Clément, et à vous, en écoutant un extrait sonore un peu spécial. Il s'agit de l'imitation proposée par une des candidates qui s'avère avoir beaucoup de talent. Écoutez bien.
3, 2, 1, action.
When the rain is blowing in your face.
Alors ?
C'est la chanteuse Adèle, non ? C'est une imitation parfaite, faut dire.
Ah, tu ne sais pas à quel point tu as raison, Clément. Il s'agissait effectivement d'un concours de sosie de la chanteuse Adèle, et la candidate en question s'appelle Jenny. Enfin, selon ses paroles, car en réalité, Jenny était la véritable chanteuse Adèle, qui s'était déguisée fin novembre dernier. Oui, pour tendre un piège à ses fans et voir s'ils étaient capables de la reconnaître. Comme toi, ils n'ont pas été longs à la démasquer lorsqu'elle s'est mise à chanter.
Et vous pouvez, je crois, voir l'extrait du concours dans une vidéo postée par la BBC sur YouTube.
Oui, oui, effectivement.
Et bon, c'est pouf, sacré Adèle en tout cas. Bon.
Alors là, il reste sur Luc. Bon, allez, c'est quoi la prochaine question, Corentin ?
Plus difficile cette fois, même si cela concerne un sujet d'actualité brûlant. Quel est le point commun entre Daesh et des canards de bain en plastique ?
Aucune idée.
Disons que c'est...
Les nombreuses heures que j'ai passées...
Je crois que Léo avait la réponse, c'est plutôt un site qui propose en fait des images détournées de l'EI. Et donc c'est le site 4chan.org qui publie des photomontages d'internautes représentant les soldats de Daesh dont les canards ont été ont été changés en tête de canard de bain jaune et souriant. Ils ne brandissent plus de kalachnikov mais plutôt des brosses de toilette. Et même s'ils ont tous des anatidés, ils ne canardent plus. L'idée est de ridiculiser l'État islamique et de rendre moins effrayantes les images diffusées à son sujet. Les auditeurs intéressés pourront ainsi proposer leur montage afin d'utiliser le rire comme arme de destruction.
Et ben c'est un projet qui remonte le moral en cette période post-attentat. Alors, je vais vous remercier pour ce journal de la culture puisqu'il est déjà 14h40 et on doit maintenant passer à un petit point sur l'actualité scientifique, une autre actualité, avec Léo. Léo, ce sera à toi juste après un jingle.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia, classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe, le début des épidémies.
A major outbreak of Ebola. A death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer.
Yes, science!
Et alors l'actualité scientifique, Léo, c'est quoi ?
Eh bien, la COP21,
toujours
sur toutes les lèvres, bien qu'elle soit la une de tous les journaux, au centre de l'actualité globale, je ne m'appesantirai pas sur ce qui est en soi plus un événement diplomatique qu'un événement écologique. De toute façon, les nombreux journalistes sur place le font bien mieux que moi. Cette 21e conférence des parties sur le climat annonce la couleur dès son nom. C'est la 21e fois que l'on met le climat au centre de la table pour tenter d'arracher enfin un accord global. La tentative la plus importante à ce jour, certes, mais qui nous dit que cette fois-ci sera la bonne. Nous avons eu beaucoup de discours sur l'état de la planète à cette occasion, mais tous peuvent se résumer par celui du Premier ministre des îles Tuvalu, au cours duquel il a notamment déclaré que nous sommes au bord de la falaise. Ces mots ne traduisent que pauvrement la situation critique, il faut bien le dire, dans laquelle nous sommes. La planète telle que nous la connaissions n'existe déjà plus, et nous sommes prêts à faire un grand pas en avant depuis la corniche. Une hausse significative des températures est quasiment inévitable et nous en voyons déjà les conséquences. Le climat est de plus en plus incertain, violent, extrême et il tue. Orages, cyclones, sécheresses, canicules, tempêtes. Pékin lutte contre la pollution, les îles du Pacifique contre la montée des eaux et le Moyen-Orient voit ses réserves en or bleu s'amenuiser, risquant d'embraser encore plus la région. Quelques exemples parmi tant d'autres. Nous sommes responsables de la 6e extinction biologique que notre planète ait connue depuis sa formation et depuis l'apparition de la vie. Nous avons mieux fait qu'un météore de plusieurs milliers de tonnes il y a 65 millions d'années, mieux fait qu'un volcan gigantesque de la taille de la Sibérie il y a 250 millions d'années, mieux fait qu'une ère glaciaire où toute la planète était congelée il y a 700 millions d'années. En l'espace de la moitié de leur vie, mes parents ont vu, sans le savoir, la moitié des espèces de la Terre s'éteindre. La moitié en un demi-siècle.
C'est joyeux.
Oui, et face à la réalité, certains la dénient encore. Outre-Atlantique, certains affirment qu'il n'y a pas de changement car il neige toujours en hiver. Que dire alors de la sécheresse critique et des graves incendies en Californie ? Certains affirment même que cela aurait des conséquences bénéfiques, notamment pour nous en France. Les violences cévenoles, comme celui qui a ruiné les environs de Cannes cet automne, et fait 20 morts, sont effectivement des plus bénéfiques, vous en conviendrez. Je ne vais pas battre en brèche tout l'argumentaire climato-négationniste dans cet édito, ce serait enfoncer des portes ouvertes à coups de bulldozer. Le pur sourd est celui qui ne veut pas entendre, caractéristique assez partagée parmi cette communauté, plus que minoritaire, n'hésitant pas à manipuler les faits pour avoir raison. Le silence assourdissant dont elle nous gratifie en ce moment est ainsi plus que bienvenu. L'objectif ultime et final de la COP21 est de limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Il est quasiment certain que les 1 degré seront franchis cette année. Ça ne semble pas très bien parti dans l'état des choses. Reste que l'initiative ne peut être que saluée, bien que ça fait plus de 40 ans que les premières alertes sur les émissions de gaz à effet de serre ont été émises par la communauté scientifique. Nous avons déjà adapté notre comportement en recyclant et en économisant. Il va falloir très probablement faire plus qu'encore et abandonner la consommation effrénée des ressources terrestres non-sens face aux limites de notre planète bleue. Gardons espoir toutefois de renverser la vapeur. On l'a déjà fait sur d'autres poisons. Les CFC, toxiques pour la couche d'ozone, ont été interdits mondialement dans les années 1970, permettront aux trous gigantesques qu'ils avaient formés au-dessus de l'Antarctique de se refermer aujourd'hui.
Assez méconnu.
Oui, ce n'est pas l'espèce la plus forte, ni la plus rapide, ni la plus intelligente qui survit le mieux. C'est celle qui s'adapte. Et il nous reste très peu de temps pour le faire.
Alors merci Léo pour ce billet peu optimiste et assez glaçant, il faut le dire, sur la réussite de cette COP21. Et après un billet justement qui est aussi glaçant, Baptiste va vous prouver que même en parlant de réchauffement planétaire, eh bien on peut se détendre. C'est l'heure de la météo.
La météo. Pardon.
Baptiste.
Bref, sans transition, tant qu'on est dans l'ambiance festive, calor, corps en sueur, musique latine, piment et Xavier Bertrand, est-ce que vous savez quelle est la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre?
Non.
Non. Mais en fait, c'est pas un truc qu'on retient vraiment à la météo.
Ah oui.
S'il fait beau dans notre ville et tout ça, tout ça. Bref, en fait, ça a été un joli 56,7 degrés Celsius, relevé le 10 juillet 1913 à Furnace Creek, aux USA. Eh ouais. Bon, du coup, je pense que les gens, ils n'étaient pas trop dans l'ambiance musique latino et tout, plus à chercher de l'eau pour survivre, en fait. Vous allez me demander, c'est où Furnace Creek?
C'est où Furnace Creek?
Merci, Clément. En fait, Furnace Creek, c'est une petite ville aux USA, très mignonne, avec un camping, une supérette et quelques habitations. Je crois qu'il y avait 16 habitants sur Wikipédia. Elle est très bien située puisqu'elle est pile au milieu de la vallée de la mort.
Ah.
Vous allez me dire, c'est joyeux comme vallée. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Bah, en fait, les premiers chercheurs d'or, ils ont été coincés, on va dire, pendant quelques mois là-dedans. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment de vie, ni animale, ni végétale.
Ah.
Bon. Du coup, ils ont quand même survécu en brûlant leurs charrettes et en mangeant leurs bœufs. Hashtag la joie, hashtag on enchaîne.
Oui, on enchaîne.
Voilà, maintenant je vais vous faire rêver avec la température la plus basse. Bon, elle varie selon les méthodes utilisées, mais elle reste autour de moins 90 degrés Celsius.
Effectivement.
Et elle a toujours été enregistrée en Antarctique. Bon, pour ceux qui confondent, l'Antarctique, c'est en bas, il y a plus de lettres, donc ça tombe. Pareil pour les tropiques.
D'accord.
Voilà, du coup, je vous ai cherché des petites infos croustillantes, on va dire, qui pourraient vous intéresser sur l'Antarctique. Bon, il y en avait beaucoup, mais j'ai dû choisir. Et je vous ai choisi le calamar colossal, qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres de long.
14 mètres.
Et ouais. Bon, ça reste une estimation parce qu'en fait, on a retrouvé que des femelles, des jeunes ou des individus au sexe indéterminé. Je sais pas comment ça marche pour les calamars. Bon, et j'ai fait le calcul pour vous. 14 mètres, ça représente environ 8,80 Kim Kardashian. L'unité du futur. Donc voilà, tout ça pour vous rassurer. Pas de calamar épousant Kenny West aujourd'hui, ni de brûlage de charrette prévu, puisqu'il fera environ 10 degrés Celsius à Lyon, une couverture nuageuse partielle étant prévue dans la soirée.
Alors merci Baptiste, c'était sa première vidéo, ta première météo, pardon, en direct sur Transistor. On te retrouve dans quelques instants pour l'horoscope. Mais avant, il faut quand même qu'on souhaite une bonne fête à tous les saints. À tous les saints. Les saints, S-A-I-N-T, je précise. Et tous ces saints du 3 décembre. Et c'est avec Mathias. Rebonjour Mathias.
Rebonjour.
Qui vous propose aujourd'hui son éphéméride.
Bienvenue dans l'univers de François Xavier. Un monde magique, plein de bons sentiments et d'amabilité. Voici la minute de François Xavier.
Et oui, car aujourd'hui, jeudi 3 décembre, nous fêtons les François-Xavier, ou les Xavier si vous voulez faire plus court. Alors, pour être plus précis, qui était ce François-Xavier ?
Oui, qui voilà. était ce François-Xavier ?
Voilà, je vous entends déjà le demander. Saint François-Xavier est né, comme son nom l'indique, dans la ville de Javier, au Pays Basque. Et c'est donc aussi aujourd'hui la fête du Pays Basque tout entier, car on fête la journée internationale de la langue basque.
Eh ben.
Alors aujourd'hui, sortez tous vos piments d'Espelette et votre pelote basque. Rien de tel pour passer une super journée. Alors, Saint François-Xavier était un saint missionnaire qui a tenté de christianiser les terres d'Extrême-Orient, donc on peut juger de sa réussite ou non. Donc alors, nous fêtons avec lui tous les missionnaires, et attention, pas la position du missionnaire, enfin, vous faites ce que vous voulez, les missionnaires en missionnaire, voilà, bref. Et aussi, donc, d'après Wikipédia, non seulement les missionnaires, mais aussi le tourisme.
Ah.
Et donc voilà, le tourisme. Pour fêter les François-Xavier, en fait, prenez des vacances. Je suis sûr que cela leur fera plaisir, j'en suis certain. Mais là, vous vous dites, mais je ne connais pas de François-Xavier.
Oui, bah moi, c'est mon cas, j'en connais
et
pas
oui,
de François-Xavier.
Bah oui, donc vous pouvez toujours vous rabattre sur les Xavier, oh. un peu plus connu, un peu plus, voilà, une espèce un peu plus diffuse dans la nature. Et donc, vous pouvez toujours souhaiter une très bonne fête aux personnalités suivantes. D'abord, Xavier Bertrand, député de l'Aisne et candidat à la présidence de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie contre Pierre de Saint-Aignan pour le Parti Socialiste, dont vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr, et une candidate Front National inconnue du grand public, Marine quelque chose. Vous voyez très bien que je respecte l'équité politique, au cas où le CSA nous écouterait.
C'est bien.
Autre Xavier des mondes du froid, Xavier Dolan, jeune prodige du cinéma québécois et égérie de tous les hipsters. J'avais hésité à faire ce moment de l'éphéméride en québécois, mais je me suis dit que ce serait assez déplacé, de toute façon je sais pas le faire.
Bon, bah comme ça.
Et dernier Xavier Niels, patron de Free, mais peut-être que votre mot doux ne lui arrivera pas en temps et en heure à cause de votre mauvaise connexion internet. Je terminerai donc cette éphéméride sans oublier les femmes,
bien
car
sûr.
Le prénom Xavier existe.
Ah oui, pour notre bonheur.
Et pas vraiment le prénom Françoise Xavier, car accordons-nous, cela ferait un peu double peine. Et donc, on peut fêter une très bonne journée à Xavier Tibéri, mais peut-être sera-t-elle occupée à régler ses affaires de faux électeurs dans la mairie du 5e arrondissement avec son mari. Donc on la laisse à ses affaires et on lui dit quand même bonne fête Xavier.
Oui, bonne fête Xavier. Alors beaucoup trop de X à prononcer aujourd'hui sur Transistor.
Oui, c'est difficile.
Et bah oui, on l'entend bien. Hein. Alors il est temps maintenant de nous assombrir un peu. Il est temps d'un peu de mysticisme. Vous vous demandez sans doute ce que les astres vous réservent. Baptiste vous répond dans son horoscope.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Bon, je vous rassure, il n'y a que des gens beaux dans mon horoscope. Alors, Bélier, mettez des masques de concombre pour une peau plus lisse et en bonne santé. Pour cela, hachez un demi-concombre et ajoutez 3 cuillères à soupe de yaourt nature. Taureau, envoie ENS au 6-13-13 pour savoir qui t'aime en secret. Un lettreux, un scienteux ou peut-être un mouflon? Pour le savoir, envoie ENS au 6-13-13. Gémeaux, j'aime. Cette semaine, la doudoune adulte est à 19,99€ au lieu de 39,99€. Et oui, seulement 19,99€. Rendez-vous donc chez Gémeaux, 36 rue Jean Gabin à Vaux-en-Velin. Cancer. Votre signe est actuellement traqué par de nombreux biologistes. Votre défense la plus efficace serait de porter constamment une pancarte « Je ne suis pas une tumeur » autour du cou. Lion, c'est votre ville, mais n'en profitez pas pour laisser traîner vos cadavres d'antilopes sur les passages piétons. Ouais, déjà c'est sale, et en plus après on va recevoir des mails du service d'entretien. Vierge et puceau, Marie vous soutient. Balance, évitez les tribunaux et préférez les cuisines. Penchez toujours du bon côté. Scorpion, le lancement de la série s'est effectué devant 4,38 millions de téléspectateurs sur M6, soit environ 27% sur les ménagères de moins de 50 ans. Sagittaire, méfiez-vous de ces traîtres, les sanitaires. Capricorne, Bon, là, j'avoue, ça commence à faire beaucoup de signes, j'en ai marre. J'ai l'impression que ça finit pas. Verseau. Non, en plus, Verseau, quoi. Non, mais les signes, ça ressemble plus à rien, la fin. Genre Fontaine, Fontaine Mono. Voilà, je me souviens. Bref. Bon, en parlant de Fontaine, Poisson, vous causez sérieusement des problèmes de surpêche. La fin dans le monde et la COP 21, je pense que c'est à cause de vous. Franchement, retournez dans vos états.
Alors merci Baptiste d'avoir fait parler les astres pour nous. J'espère, chers auditeurs, que votre avenir ne vous déprime pas trop et vous réserve toutes les choses dont vous pouvez rêver. Baptiste vient d'éclaircir les astres. Je vous laisse maintenant à votre destin. On continue à se détendre. Il est 14h53, 54 même sur Transistor, et c'est l'heure d'écouter Corentin et son billet d'humeur.
Merci Clément. Chers auditeurs, reprenons un peu de notre sérieux, car je voudrais aborder avec vous un sujet bien noir et ô combien pénible. Vous en avez certainement déjà entendu parler, car depuis peu il fait trembler la France et le reste du monde. Vous-même déplorez peut-être la perte d'un être cher qui a succombé aux horreurs perpétrées par ce phénomène à l'importance grandissante. Si vous voyez de quoi je veux parler, vous comprendrez ma terrible détresse. Mais inutile de faire tant de mystères, puisque vous l'aurez sûrement compris, il n'est question ici que d'une seule chose, j'ai nommé l'importance que les Français, et de manière générale, que l'homme contemporain ordinaire, attache à leur ligne. C'est cela même. À leur poids, à leur ventre, à leur surplus graisseux, à leurs excès lipidiques et à leur glycogène surabondant dont ils essaient à tout prix de restreindre la vigueur. Nous ne pouvons plus nier son existence. Depuis quelque temps, l'homme contemporain ordinaire est irrésistiblement attiré vers les affres du djihad graisseux. Dégoulinant de sueur, il pue les 3 heures de jogging par semaine, le parfum aigre du fromage blanc 0% et les émanations édulcorées de votre soda sans sucre préféré. Petite parenthèse en passant, qu'il soit light ou zéro, c'est toujours le même, mais pour des clientèles différentes. D'ailleurs, mon cher Clément, ce billet s'adresse aussi à vous, puisque je dois bien constater que vous savez entretenir votre corps.
Merci beaucoup, mon cher Corentin.
De rien. Ah, que je regrette ce temps béni des dieux, où l'obésité n'était pas la marque de fabrique des classes défavorisées, mais le signe de ralliement d'une bourgeoisie fière de pouvoir s'offrir les plus truculents festins. Je vous pose donc la question, que s'est-il passé pour que notre société périclite de la sorte ?
On se le demande.
Est-ce la révolution numérique véhiculant quantité de représentations soi-disant parfaites d'êtres humains qui a biaisé notre idéal de beauté et notre manière de plaire ? Mais alors que la chasteté érémitique est tournée vers un recueillement sur soi, l'abnégation sustentatoire, elle, n'aurait d'autre vocation que la luxure et le rapprochement physique des corps. Autrement dit, suer pour baiser, mincir pour jouir. Certes, je ne saurais nier que l'objectif en lui-même me plaît.
On est heureux de l'apprendre.
Mais n'y a-t-il pas quelque chose de fallacieux dans un tel raisonnement ? Car que valent les avantages d'un corps tout maigre et bien faible, où la peau n'a aucun degré de liberté, devant ceux procurés par un corps plantureux, aux formes généreuses et dotées de luxuriants espaces, permettant caresses infinies et innombrables positions ?
On en a parlé d'une tout à l'heure, le missionnaire, mais on va pas y revenir.
Chers amis, je n'ai pas peur de reprendre la phrase d'un fameux penseur de notre temps, le gras. C'est la vie. Pour la petite histoire, mon professeur de mathématiques de spécial, très compétent au demeurant, n'hésitait pas à déclarer une pause dans le cours, car il ressentait le besoin de, selon ses paroles, renouveler sa substance. Ah, des hommes comme lui, on en fait plus beaucoup. Aussi, je voudrais lancer cette injonction au monde afin qu'il l'érige en loi universelle, puisqu'il n'est guère de chair sans bonne chair, trinquons, buvons, mangeons.
Et c'est sur cet idéal qu'on finit, Corentin. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, il est bientôt 15h, nos auditeurs ont sûrement fini de déjeuner, je crois. Bon, il est maintenant temps en tout cas de conclure cet En ce moment, le 4e depuis la création de l'émission il y a un an, et le 1er de la nouvelle équipe de Transistor. Merci à vous tous d'y avoir participé, et à vous, auditeurs fidèles, de l'avoir écouté. Mais le direct de Transistor n'est pas fini. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour fêter l'anniversaire de Transistor. Et pour fêter cela, Mathias vous propose, dans une petite création sonore, de passer 180 secondes avec Transistor.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Chers auditeurs,
bienvenue sur les ondes de Transistor.
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 Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est maintenant.
Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans un nouvel épisode des Yeux ont des oreilles.
Il y a une vie après normale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thibaut.
Bonjour Anne-Laure.
Et bienvenue dans une nouvelle émission de la rubrique Normal Sup intitulée Il y a une vie après normale.
There is no alternative.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème ?
Il se passe des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
Mais enfin, Marie. Enfin, c'est un pasteur est-allemand qui s'est battu contre le régime.
Le monde ne suffit pas.
Ça c'est donc parti pour Anormal, épisode 1.
Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Vous voilà dans Il était une science qui revient pour un 9e numéro.
J'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches.
L'Amérique, pour la voir, vous repasserez.
Votre amplifié, votre émission sur l'actualité.
Qui doit-il sélectionner de Valbuena ou Benzema?
Grande question.
Exactement. Et ces messieurs le trouvaient à l'époque.
Ah oui, je crois que vous, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je n'irai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
C'était les copains d'abord et les premiers transistors.
Notre transistor.